qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Et aujourd'hui, le témoin, un géographe, Armand Frémont, Le Havre et moi.
Hé, on est arrivé.
Hein?
Le Havre.
Ah oui, Le Havre.
Tu parles d'un brouillard.
Je me connais le brouillard, j'étais au Tonkin, alors tu comprends.
Quand le 5 février 1517, il y a 500 ans, François Ier donne l'ordre d'aménager un port fortifié en tête de l'estuaire de la Seine. On ne devine pas encore toutes les ressources que réserve le site choisi, au Havre de Grâce. Pareillement, le caractère exceptionnel de la situation, au croisement de plusieurs axes de circulation déterminants, n'apparaîtra que peu à peu. Le roi, à dire le vrai, ne connaissait pas si bien les choses de la mer. Dans ses ports, il cherchait les pouvoirs plus que les richesses. Heureusement, il y eut les notables et aussi les gueux du Havre qui furent toujours prêts à se glisser dans les opportunités qu'offrait le commerce international. Les métamorphoses sont dans la nature du Havre. Les armes de la ville portent le lion normand, les lys de France et aussi une salamandre, l'animal fétiche de François Ier capable de traverser les flammes. La ville n'est plus, en septembre 1944, qu'une table rase. L'État redevient le décideur numéro un qui pilote la reconstruction d'Auguste et Perret et aussi les agrandissements perpétuels du port. Mais avec la mondialisation, les impulsions déterminantes ne vont plus venir des acteurs nationaux ou locaux. Le Havre s'est mis avec brio au rythme des conteneurs. Cependant, Anvers et Rotterdam vont plus vite. La question de la marginalisation du port est posée. Automne du Havre, en tout cas, été de l'anniversaire extrêmement brillant avec toutes sortes de manifestations inaugurées par Édouard Philippe juste après sa nomination quand il a quitté l'hôtel de ville du Havre à Matignon.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Armand Frémont, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'un de nos grands géographes de la génération aînée. Vous avez publié beaucoup sur Le Havre, la mémoire d'un port aux éditions Arléa, récemment aux éditions OREP, la mémoire de la guerre. Le Havre, ça n'a pas été votre spécialité de géographe, mais vous n'avez jamais hésité à dire « je » quand vous parliez de la ville.
Non, c'est pas mon terrain de géographe, mais c'est ma ville. Et même si j'y ai vécu que 20 ans, finalement, c'est une ville à laquelle je suis très attaché. Et par conséquent, je l'ai toujours retrouvée, à la fois comme étudiant, comme professeur, et maintenant, j'aime écrire sur Le Havre, des livres liés à ma famille, liés à l'histoire, où j'aime même écrire un petit article ici ou là. Je n'ai jamais quitté Le Havre. J'ai vécu 20 ans au Havre, mais j'ai l'impression de ne l'avoir jamais quitté.
Si vous faisiez un article d'histoire sur 1517, la date de fondation par le roi François Ier.
Mais pour moi, ça fait partie de ma mémoire romanesque du Havre. J'imagine. Le Havre est installé sur une basse plaine, marécageuse, derrière un poulier de galets, mais c'est un marécage profond où volent des canards colverts et des mouettes. Et dans un monde un peu sauvage qui a toujours contrasté avec les gens du plateau, les paysans du plateau, chefs de cour. Et alors je vois arriver là les cavaliers du roi François, les barques, dans ce monde incertain, et ils ont une mission. Ils doivent créer un port fortifié. Et ça va être Le Havre.
Alors le site s'est beaucoup civilisé quand vous naissez. Vous dites, j'ai rencontré Boudin, Monet, Dufy, avant de les connaître. Dufy, en 1938, vous avez 5 ans.
Les beaux spectacles de la nature incitent à peindre. ce qui est un beau spectacle pour tous, comme par exemple les digues de l'entrée du port du Havre, bordées de leurs blocs de rochers artificiels. Le sable doré, les coquillages qui sont en forme de vagues qui roulent, les cargos et les voiles qui dansent au milieu des vagues pointues en accent circonflexe parmi la nacre de la lumière. Voilà ce que tous aperçoivent. Mais le peintre, au milieu de cette série, voit apparaître en cité. Alors il prend ses pinceaux.
Le géographe prend aussi ses outils de mesure et il observe que le site du Havre, on n'en connaissait pas toutes les possibilités au début, mais elles se sont révélées extrêmement riches, inattendues même.
Ben, elles se révèlent, non pas inattendues, mais elles se révèlent. C'est une tête d'estuaire d'un très grand fleuve, navigable. C'est la Manche, au-delà, c'est l'océan. Tout de même, la création par François Ier, peut-être poussée par des conseillers, c'était quelques dizaines d'années après la découverte de l'Amérique, c'était quand même de voir sur l'immensité océane, comme on disait. Et le Havre est là, c'est une possibilité de port en eau profonde pendant la plus grande partie de la journée, en dépit de la force de la marée, parce que il y a un phénomène que je vais pas expliquer là, mais qui est la retenue de marée et qui fait que marée haute, pour simplifier, dure plus longtemps qu'ailleurs. Allez, il y a une retenue de marée. C'est face à l'Angleterre, ce qui est un inconvénient quand on est en guerre avec l'Angleterre. Le Havre va devoir subir ça quand même pendant plusieurs siècles. Il aura été bombardé plusieurs fois par les navires anglais au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais ce qui est un avantage, c'est un des ports français les plus proches de l'Angleterre, un des grands ports. Et au fond, c'est le relais possible entre Londres et Paris. Donc, oui, le Havre est très bien situé. Et c'est un beau site, en plus.
Et la situation permet aussi le développement du commerce transatlantique. On est toujours dans votre enfance. Là, en 1934, dans un son des actualités cinématographiques, vos parents et vos grands-parents allaient souvent au cinéma. On a entendu Quai des Brumes, même époque, au début de l'émission en exergue. Votre père, qui était fou d'Amérique, a été barman sur de grands paquebots, par exemple sur l'île de France, dont on assiste ici au départ en 1934.
Dernier adieu à la Terre. Déjà l'épave prend la houle large, rythmée comme la respiration même de l'océan. 5 jours durant, on vivra dans cet univers en miniature qui va du gouvernail à la proue, du fond de la cale à la pomme des mâts, où toutes les opérations sont exécutées, tous les aléas prévus, tous les besoins satisfaits, tous les désirs comblés par les seuls moyens du bord. Pilote de port, curieux marin dont le métier est de mener le navire en mer libre et dont le rôle est terminé, aussitôt la passe franchie sans encombre. À quel voyage rêve-t-il donc en appareillant chaque matin pour les Amériques et en se retrouvant invariablement à terre pour l'apéritif?
Ouvrier Calfa au départ, employé de commerce, navigateur, barman sur les paquebots, lui ne prenait pas l'apéro en ville, il tenait le bar de l'île de France. Et puis quand vous le voyiez arriver, il descendait avec des valises pleines d'Amérique.
Oui, mon père était à la fois un fou d'Amérique et un aventurier raisonnable. Il avait été orphelin très jeune, et après un passage dans un orphelinat, qui lui laisse d'ailleurs de mauvais souvenirs, on peut dire qu'il a été élevé sur le port. Il a quelque chose, en tout cas son feutre, dont je me souviens bien, son chapeau, je crois que je l'ai toujours, a quelque chose du chapeau de Gabin. Hein. De même que ma mère, je ne veux pas dire qu'elle a les yeux de Michel Morgan, mais disons que pour moi, elle les a. Et mon père, qui, comme il le disait, avait un certificat d'études au rabais, c'est ce dont il était fier. Mon père avait beaucoup d'ambition. Et c'est pour ça qu'il a fait un peu tous ses métiers dans son jeune âge. Il est même resté près d'un an dans une université américaine, mais comme laveur de verre. Il n'empêche qu'il y a appris l'anglais et qu'il connaissait parfaitement l'histoire américaine. Et puis après, il a été garçon du commandant sur des cargos. Il faisait des voyages de 4-5 mois. Il était absent à ma naissance. Et son ambition, c'était d'aller sur les grands paquebots. L'Île-de-France, le Paris, le Normandie. Et il y est arrivé, il y est parvenu par son sérieux, un coup de pouce donné par ma grand-mère, probablement, qui connaissait un commandant. Et il a fini toute sa carrière, guerre mise à part, comme barman sur les paquebots de la Transat.
Votre grand-père, vous vous souvenez aussi de la main de votre grand-père, vous la sentez encore dans votre main quand il vous faisait découvrir la rue au Havre. Il ne vit pas là où est la haute, sur la côte, encore que il fournit les papiers peints, la peinture pour la rénovation des maisons de la haute. Il habite le centre. Et ça, c'était votre milieu, Armand Frémont. Le centre qui pouvait monter par le téléphérique, l'escalier, le funiculaire jusqu'à la haute, qui en connaissait les richesses, mais qui se tenait quand même dans un entre-deux.
C'est un entre-deux. Mon grand-père, lui aussi, a eu une jeunesse très difficile, d'ouvrier peintre. Et là encore, il a travaillé, il a été curieusement sauvé par la guerre de 1914, grièvement blessé, deux fois. En 1914, il a été réformé. Et donc, il a pu travailler pendant la plus grande partie de la guerre, accumuler un petit pécule avec sa femme. Et ils sont devenus des petits entrepreneurs du Havre. Et c'est vrai que c'était, dans mon enfance, une ambiance qui n'était pas du tout celle de la haute, comme on dit, ou de la côte. C'était pas des gens de la haute, mais c'était pas non plus le monde des dockers, des ouvriers, des gueux, qui ne sont pas du tout de ces quartiers, mais plutôt plus à l'est de la ville. C'est entre les deux. Mon grand-père, c'est le peuple, mais au sens 1789.
Et les gueux, d'où ils venaient, les deux branches de votre famille,
les deux branches,
étaient des émigrés. Les gueux des quartiers pauvres, ceux qu'on retrouve dans le Havre Athletic Club.
Oui, ça aussi c'est un grand mythe et un de mes grands souvenirs romantiques. De mes souvenirs réels, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, avec mon grand-père, nous ne manquions jamais un match à la Cave Verte. La Cave Verte étant le stade un peu bucolique. Même parfois, ma grand-mère nous accompagnait. Mais c'est aussi un trait de l'histoire du Havre, puisque c'est en 1872, dit la chronique, que des marins britanniques ont commencé à jouer avec un ballon sur un terrain vague au bord de la plage, près des chantiers de construction navale, dans la ville qui était en plein bouleversement à cette époque, et que c'était le début de quelque chose qui était le football rugby. Et ça allait donner le hack, et le hack, le tout football actuel, appelle le club doyen, parce que c'est le premier club de football du continent européen.
Votre père, fou d'Amérique, va faire, entre 42 et 44, la guerre. Est-ce que c'est du côté de la France libre ou du côté de l'Amérique? Peut-être davantage encore du côté de l'Amérique. Et quand il rentre, en septembre 1944, vous avez 11 ans à l'époque, il trouve le Havre tabula rasa après les bombardements dont vous avez un souvenir, parce que vous étiez là.
Absolument. Le bombardement du Havre, c'est peut-être le grand souvenir de ma jeunesse. Je me suis retrouvé après, jeune garçon, en sixième, dans les ruines, à peu près un mois, après le terrible bombardement. Et ma grand-mère allait chercher l'eau dans un trou de bombe où il y avait une canalisation brisée. C'est vous dire. Et ce qui est très curieux dans ma mémoire, c'est que le traumatisme n'a pas été très marquant, parce que finalement, je crois que j'étais plus occupé, petit garçon timide, à rentrer en sixième.
Donc, rue de l'Ouest, on peut voir une cinquantaine de mètres d'anciens faubourgs intacts, au milieu d'une plaine de pierres. C'est extraordinaire. Un pâté de maisons, de vieilles baraques, a échappé aux bombes et se dresse comme une dent pourrie au milieu des terrains les plus vagues. C'est exactement ainsi. Un pâté de maisons, avec son tabac, son boucher, son cordonnier, son brocanteur. C'est saisissant comme un pari stupide, car cette rue épargnée, c'était la plus pauvre, la plus malsaine. Rue de l'Ouest, ce soir, on a pendu des lampions et des drapeaux. Le tabac fait marcher son piano mécanique. Un piano mécanique avec deux personnages de cire, un clown et un gaucho. Animé, grandeur nature, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas autour cette sacrée poussière de ville écrasée.
Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer, et les bateaux se navrent d'être toujours seuls sur la mer. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. Les enfants de la terre se fichent du bon Dieu, ils s'aiment sans s'en faire, comme s'aiment les amoureux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. La 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 la.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Armand Frémont, c'est le 500e anniversaire de la naissance du Havre, et il faut aussi parler de sa reconstruction après-guerre. C'est l'État qui va piloter la reconstruction. C'est toujours ça, d'ailleurs, qui vous intéresse, Armand Frémont, dans l'histoire du Havre. Le pilotage par l'État, et puis aussi la responsabilité que prennent les Havrais. Vous avez d'ailleurs tendance à dire que ce qu'il y a de mieux au Havre, ça vient des Havrais.
Oui. Le Havre est créé par un roi, l'État, et le Havre est reconstruit après 1944 par volonté de l'État. C'est le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme qui désigne Auguste Perret, grand maître de l'architecture de l'époque, pour être le maître d'œuvre de cet énorme chantier. Les Havrennes sont jamais complètement passif là-dedans. Déjà avec le roi, le Havre était fait pour être un port de guerre. Et ça a été surtout un port de commerce. Il n'a jamais été un port de guerre, ou pratiquement jamais. Perret a été très soutenu, et d'autre part, il avait une volonté, un plan, un projet très fort. Mais les Havrais, sentimentalement, ont dit leur mot, et notamment par les syndicats de propriétaires. Et la reconstruction, eh bien la reconstruction de Perret, mais pas totalement. Le quartier Saint-François a été reconstruit d'une autre manière face au béton de Perret. C'est un quartier de briques.
Alors j'entends bien qu'il faut faire leur part au Havrais, mais écoutons quand même maintenant le maître. Vous avez souvent une manière de le qualifier en clair-obscur. C'est un grand précurseur, mais c'est aussi un homme arrivé, un architecte académique à certains égards en 1945. En tout cas, dans cet entretien, il a 71 ans et beaucoup, beaucoup d'énergie.
Il y a une partie de ville, la ville surélevée, la ville qui est sur les falaises. Cette ville-là a été éclatée presque entièrement, n'a pas trop souffert. Mais la ville de François Ier, la ville bâtie sur les marais, est totalement détruite. Il n'en reste absolument rien, sauf quelques édifices, une église, quelques monuments conservables, je crois, et que nous conserverons. Mon but, c'est de surélever le plan de toutes les voies, non pas de faire un plateau, comme on l'a dit, mais de faire un réseau de voies surélevées qui mettra à l'abri le Havre de tous les ennuis qu'il a eus pour ses canalisations, pour tous les réseaux d'énergie qui doivent servir une ville.
Il faut compter à peu près combien de temps pour la reconstruction de la ville?
Si nous avions tous les moyens possibles, ce serait fait en 7 ans. Ce qu'il nous faut, voyez-vous, c'est du charbon. Ciment, charbon. Plâtre, charbon. Chaux, charbon. Tuiles, charbon. Fer, charbon.
Mais la ville ne sera pas reconstruite en briques, alors?
Mon intention, c'est de la reconstruire en pan de béton armé.
C'était comme ça, d'ailleurs, que vous avez construit la plupart de vos grandes...
Oui, je pense que c'est le moyen actuel de satisfaire le plus économiquement aux besoins des hommes. Nous ferons de notre mieux et nous tâcherons de faire, comme l'a dit le général de Gaulle, de faire du nouveau et du raisonnable.
Du nouveau et du raisonnable, on croirait entendre votre père, Armand Frémont. Les Havrais, ils sont assez fiers du record de vitesse qui, à certains égards, a été battu par la reconstruction. Ils concéderaient que c'est un chef-d'œuvre s'ils y avaient pris davantage de satisfaction. Ça n'est pas un chef-d'œuvre parce que les Havrais ne s'y sont pas vraiment retrouvés.
C'est les sentiments autour de la reconstruction doivent être analysés de manière complexe. C'est pas facile. D'abord, il y a une évolution dans le temps, autant que je puisse saisir. Légère méfiance au début, rejet pour la majorité pendant toute une période. La période des années 70-80. Et puis, réhabilitation. Réhabilitation, on s'aperçoit que c'est un grand maître, que c'est unique à son époque, que c'est un prototype, en quelque sorte, et que finalement, on y vit bien. Donc, il y a une évolution dans le temps. Une évolution selon les habitants qui le perçoivent. C'est la reconstruction telle que Perret l'a bien décrite, là, vue par des gens qui ont connu le vieux Havre, pour lequel le chef-d'œuvre, c'est la rue de Paris, avec ses petits cafés les uns à côté des autres, et ses rues pas très propres adjacentes. Et ils ne s'y retrouvent pas. Mais au contraire, alors moi je suis la génération intermédiaire, et finalement très influencé, je passe peut-être par... tous les sentiments. Mais ce que je constate maintenant, c'est que on est plutôt très heureux au Havre. Je parle du Havre-Centre, parce que je vais faire encore une remarque par ailleurs. Tous les efforts qui sont faits actuellement pour rénover la ville sont salués. Enfin, la consécration, l'inscription à l'inventaire de l'UNESCO. Et je dirais, je ne crache pas dessus. Je suis d'accord. Donc, vous voyez, la reconstruction du Havre, c'est quelque chose de complexe, dans lequel il y a Perret, mais il y a aussi continuellement la réaction des Havrais, de manière finalement très subtile.
On ne va pas raconter quelle est la part de l'État dans les aménagements du port à partir des années 1945-1950. Le port autonome, c'est un port piloté par l'État. On ne va pas parler du grand projet Port 2000 et de l'essai d'accélération des liaisons entre Le Havre et Paris, puisque une des grandes difficultés du Havre, c'est qu'il n'a pas le même hinterland organisé que Rotterdam ou Anvers. Mais j'aimerais qu'on finisse avec le thème de la conteneurisation, forme essentielle de la mondialisation. Le conteneur est apparu sous une forme peut-être déplorable dans le très beau film consacré au Havre par Coris Maki. Nous sommes sur le port, un conteneur suspect.
Qu'est-ce qui se passe, les gars ?
Le conteneur est parti il y a exactement 3 semaines de Libreville au Gabon. Destination Londres. Il aurait dû arriver 5 jours après.
Depuis 2 jours qu'il est là.
Il y a un problème d'informatique, non ?
On est sans doute de Paris.
Commissaire Monet, Le Havre. Vous avez donc entendu des appels au secours venant d'un conteneur?
Plutôt des coups dans la boîte et des gémissements.
Qu'en pensez-vous?
S'il y avait assez d'eau et d'oxygène à l'intérieur, avec un peu de chance.
C'est un port de marchandises diverses, traditionnellement Le Havre. Les conteneurs, il y en a maintenant plus de 2 millions. Alors c'est une progression énorme. C'est une progression moins rapide que celle que connaissent Rotterdam et Anvers.
Oui, c'est tout le problème. C'est certainement le grand problème du Havre à l'heure actuelle. Et dans le... je ne veux pas dire la survie, mais dans la qualité de ce que peut rester cette ville comme grand port. Premier port français pour les conteneurs, deuxième port pour l'ensemble des marchandises, une place importante pour l'importation du pétrole. Donc, bravo. Et on peut faire une première affiche publicitaire. Le port du Havre se porte très bien. Des grands travaux dans lesquels la participation de l'État est massive. Mais les taux de croissance sur le conteneur, qui est maintenant la clé de voûte, sont très inférieurs à ceux des grands concurrents de la mer du Nord. Le Havre a toujours été le port de Paris, mais difficilement au-delà. Alors que Anvers et compagnie, si je puis dire, s'ouvrent sur le monde rhénan, sur l'Allemagne, et par conséquent ont des possibilités très larges. Est-ce que ça veut dire que Le Havre va mourir? Pour le moment, il a toujours tiré bien son épingle du jeu. Mais la navigation contemporaine autorise des grands hubs très concentrés et qui pourraient très bien se passer du Havre. Donc, je suis un peu inquiet, mais je crois comme pas mal de Havrais lucides. Et d'autant plus que il me semble que les Havrais, avec leur port autonome actuel, mais soi-disant autonome, attendent tout le salut de l'État. Or, est-ce que l'État peut couvrir et régler le grand commerce mondial? Pour en revenir à mon père, il avait l'habitude de dire « On ne fait pas la navigation avec des fonctionnaires ».
Eh bien, nous terminerons, merci à vous Armand Frémont, sur cette forte phrase. On peut vous lire chez Arléa, les mémoires d'un port, ou chez OREP, la mémoire de la guerre, et au Havre, rejoindre les multiples manifestations organisées pour les 500 ans de la ville. Notre site relaye bien sûr celui de la ville du Havre. L'émission était préparée par l'équipe de la Marche de l'Histoire, Elinka Negulesco, Claire Millon, Franck Olivard et Frédéric Martin, à la technique Ludovic Asselot, à la réalisation Valérie Aïstaraï.